Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
Bonjour les papillons et bienvenue dans cette heure de savoir, de culture générale, de curiosité et de bonne humeur. Le 6 juillet prochain, vous savez, c'est le coup d'envoi de l'Euro 2022 du foot féminin. Il sera donné en Angleterre. Vous allez voir que c'est le résultat d'un combat long et tumultueux pour avoir ce droit incomparable de taper dans un ballon. Et tout de suite, le destin fou de la reine du crime. Elle ne faisait pas du foot, mais elle a pratiqué un autre sport, vous allez voir, assez incroyable, Agatha Christie, qui d'ailleurs vous donne ses bons conseils pour écrire des romans aussi palpitants que les siens.
Le véritable travail d'écriture consiste à développer l'intrigue et la réécrire sans cesse jusqu'à obtenir une bonne histoire, ce qui prend un certain temps. Et quand on a tout le synopsis, il faut trouver le temps pour écrire. 3 mois me paraît un délai raisonnable pour terminer un livre. En revanche, je pense que pour les pièces de théâtre, cela va assez vite. Et cela va sans dire, c'est beaucoup plus amusant à écrire qu'un livre. Inutile de se soucier des longues descriptions de lieux ou de personnages. Pour une pièce, il faut écrire assez vite, rester dans l'ambiance et garder un ton naturel.
Sacré Agatha Christie qui se confie sur la manière d'écrire. Donc elle écrivait des romans et des pièces de théâtre. Elle voyageait beaucoup. Elle a même pratiqué un sport absolument dingue, vous allez voir dans un instant. Bonjour Marie-Hélène Bellac.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir dans Minute Papillon.
Merci.
Vous êtes agrégée d'histoire et autrice et vous la connaissez bien, cette Agatha Christie. Vous avez travaillé sur son destin, son œuvre. C'est vrai qu'elle écrivait plutôt vite, non ?
Oui, elle dit 3 mois, mais elle a écrit certains livres beaucoup plus vite. En fait, ce qui était essentiel pour elle, c'était de concevoir l'histoire. Et alors là, c'était à tout moment, même quand elle faisait ses courses. Et souvent même, elle parlait dans la rue, parce que comme petite fille, elle parlait aussi quand elle inventait des personnages. Et c'est en fait ce qu'elle aimait, parce qu'elle disait qu'après écrire, c'était une corvée.
Alors, Agatha Christie, c'est une immense star pour nous, mais c'est vrai que souvent on connaît plus son œuvre que sa vie privée. Pourtant, c'est une vie extraordinaire. Déjà, il faudrait la décrire. Est-ce que c'était une parfaite petite Anglaise ? Thé avec du lait et compagnie.
Oui. Enfin, c'est un petit peu quand même une famille à part parce qu'elle est née à Torquay, sur la côte sud de l'Angleterre, sud-est, dans le Devon, ce qu'on appelle la Riviera britannique. Et elle y est née un petit peu par hasard parce que son père était américain et il pensait d'abord, sa famille pensait s'installer à New York. Et puis sa mère a eu un coup de cœur pour une maison à Torquay et elle l'a achetée. Et c'est donc là que Agatha est née, a grandi dans une belle maison avec un grand jardin. Son père était rentier, donc c'était une famille qui avait un niveau de vie assez élevé. Son père allait au club de cricket, au yacht club également. Et c'était une enfant choyée, la dernière dans une famille de 3, les 2 aînés étant souvent à l'école, n'étant là que pour les vacances finalement. Et elle a eu une enfance assez solitaire avec sa nurse, qui était un personnage très important pour elle, avec la cuisinière qui lui donnait des gâteaux. Et elle n'allait pas à l'école, sa mère avait décidé qu'elle n'irait pas à l'école, donc elle a appris à lire toute seule. Et c'était une enfant déjà pleine d'imagination. Elle n'aimait pas les jouets, elle inventait des personnages et elle s'inventait des histoires.
Mais alors justement, elle s'inventait des histoires, mais à partir de quel moment elle va écrire l'histoire, le premier roman policier d'Agatha Christie ?
Alors, le premier roman policier, il intervient qu'au moment de la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, mais elle a commencé à écrire très jeune. Dans sa famille, tout le monde écrivait, des petits poèmes notamment. Oui. Mais alors, elle avait fait un pari avec sa sœur aînée, Madge, qui lui avait dit « Oh, un roman policier, c'est beaucoup trop difficile à écrire. » Elle avait dit « mais si ». Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, elle s'est engagée d'abord comme infirmière, puis elle a passé un diplôme de préparatrice en pharmacie et elle a travaillé dans la pharmacie de l'hôpital de Torquay. Et là, au milieu de tous ces flacons, elle avait du temps, elle s'est dit « ben tiens, elle a eu l'idée d'écrire ce fameux roman, ce pari qu'elle avait fait avec Madge ». Et c'est donc là qu'elle a écrit ce premier roman policier, La mystérieuse affaire de Stills.
Il est génial ce premier roman.
Oui.
Elle a du succès immédiatement, Agatha Christie, quand elle publie son premier roman.
Elle a du succès, mais enfin, ça va s'amplifier. Hein. Au départ, d'ailleurs, elle a gagné 3 francs 6 sous parce qu'en plus, elle avait un contrat plus que léonin. Mais elle l'a fait aussi, elle ne pensait pas devenir écrivain de métier. Hein. Elle l'a fait parce que c'est pour s'amuser. C'était pas pour elle un jour un métier. D'ailleurs, la première fois que le fisc lui a demandé des comptes, elle a dit oh, « mais c'est un passe-temps, c'est pas mon métier ».
Agatha Christie, c'est la reine du crime, c'est aussi la reine des chiffres et ses éditeurs l'ont bénie et continuent de la bénir. Combien de romans elle a vendu en 56 ans de carrière ?
Oui, on dit 2 milliards. En fait, c'est très difficile parce que Elle a écrit 69 romans d'énigmes, parce que c'est un roman d'énigmes plutôt qu'à proprement parler un policier, c'est trop vague. Mais elle a écrit aussi 17 pièces de théâtre, elle a écrit 6 romans sous le pseudonyme de Mary Westmacott, et elle a écrit au moins 150 nouvelles. Et on n'est pas sûr qu'aujourd'hui tout soit encore publié, qu'on n'en trouve pas encore. Parce que elle écrivait tout le temps.
Et on peut les trouver où ? C'est-à-dire, c'est ses ayants droit qui réserveraient dans quelques tiroirs des romans. Ouais.
En fait, elle a constitué de son vivant pour limiter un peu la part du fisc. Là, elle a aidé Agatha Christie, un trust, une société. Et ce trust existe toujours et c'est lui qui gère tous les droits.
C'est incroyable. Vous publiez, Marie-Hélène Bellac, Agatha Christie aux éditions Tempus. Et c'est vraiment une très belle biographie parce qu'on est vraiment dans la peau de cette femme qu'on admire et qu'on a tous plus ou moins lu. Et c'est pas le cas, vous pouvez vous plonger dans pas mal de ses romans, on va vous donner des conseils aussi de best-seller. Alors, c'est vrai que quand on lit ses romans, il laisse pas vraiment transparaître un érotisme ou un romantisme fou. Non. Et ce qui est passionnant, c'est que dans sa vie, le prince charmant, elle l'a cherché.
Ah oui, alors comme je vous disais, elle ne pensait pas faire de l'écriture son métier et elle était finalement très représentative de ces jeunes filles qui ont été élevées encore à ce qu'on pourrait appeler l'ère victorienne, même si la reine Victoria est morte au début du XXe siècle. Et donc, elle a eu une éducation qui l'a préparée à trouver un mari. Elle a même été séjournée en France pour parfaire son éducation, apprendre notamment la musique, le chant, enfin fréquenter les théâtres. Puis ensuite, elle a été au Caire pour aussi apprendre les bals, enfin faire sa présentation. Et puis un jour, dans un bal chez des amis, juste avant la Première Guerre mondiale, elle tombe sur lui semble-t-il être le prince charmant, à savoir Archibald Christie, le beau Archie, blond, les yeux bleus, un garçon plein d'aplomb, ça lui plaît. En plus, il est aviateur. Alors ça, pour elle, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle est subjuguée. Et elle l'épouse, en fait, au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, entre deux permissions, puisque Archie est mobilisé.
Et dans un instant, vous allez découvrir que cette histoire ne sera pas une si belle histoire d'amour que cela, et que même Agatha Christie, la grande écrivaine, la reine du crime, va disparaître. Est-ce que c'est une mise en scène ? Est-ce qu'elle était... Vous voulez juste prendre quelques jours pour elle ? Vous allez découvrir tout ça dans un instant, juste après. Patrick Bruel, on va écouter son conseil. Alors, regarde sur France Bleu et dans Minute Papillon.
Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
Sur la bande originale du chef-d'œuvre d'Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express, adapté par Sidney Lumet en 1974. D'ailleurs, Agatha Christie était présente à cette avant-première. Ça s'est passé comment, Marie-Hélène Bellac, vous qui avez publié une bio passionnante sur cet auteur ?
En fait, il y a eu d'abord une projection privée pour Agatha et sa famille. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Agatha s'entendait pas bien avec les adaptations pour le cinéma, pour la télévision. Elle avait toujours l'impression qu'on la trahissait. Et c'est le premier film qu'il avait véritablement satisfaite. Elle a dit en sortant, c'est un film délicieux. Et pour elle, c'était vraiment tout dire, parce que elle avait beaucoup souffert avec la MGM, notamment, qui avait utilisé des nouvelles dans lesquelles...
C'était les studios de la MGM.
Oui, les studios de la MGM qui avaient utilisé des nouvelles dans lesquelles Poirot était le détective, et à la place de Poirot, ils avaient mis
Miss Marple.
Alors, voyez, donc elle disait,
elle était tatillon là-dessus.
C'est horrible.
Ah oui, elle voulait qu'on respecte son œuvre,
Elle voulait qu'on respecte son œuvre.
Je disais tout à l'heure, Agatha Christie, donc là on était en 74 pour cette avant-première du film Le Crime de l'Orient Express adapté par Sidney Lumet, mais on va refaire un saut dans le temps. On est donc en 1926 et là on cherche partout Agatha Christie, elle a disparu.
Oui, le matin du 3 décembre 1926, elle se dispute avec son mari, avec Archie, et puis le soir...
Le fameux beau blond qu'elle a rencontré.
Et faut dire qu'il lui a annoncé peu de temps avant qu'il voulait divorcer. Et qui va pas passer le week-end avec elle, mais chez sa maîtresse, enfin chez des amis chez lesquels la maîtresse se trouve. Et donc le soir, elle prend ses affaires, elle laisse sa fille à la garde de la bonne, et le lendemain matin, on retrouve la voiture près d'un étang, abandonnée. Donc toutes les suppositions, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est un meurtre, est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un coup organisé. Et en fait, je fais assez vite, parce qu'on pourrait raconter des heures cette disparition.
Oui, c'est une émission,
mais ce qui est important, c'est que toute l'Angleterre va se mobiliser pour organiser des battues. On utilise pour la première fois dans l'histoire du pays un avion pour rechercher comme ça quelqu'un qui a disparu. Évidemment, on interroge le mari qui dit que tout allait bien, que rien, il n'y a rien de mal entre eux.
Il oublie de parler de la maîtresse et du divorce.
Voilà. Et donc, en fait, cette affaire va prendre vraiment une connotation nationale, et on la retrouve au bout de 10 jours, parce que un des musiciens de l'orchestre qui se trouvait dans l'hôtel où elle était, s'était installée, va dire à la police, eh ben, la dame dont on voit la photo dans tous les journaux, nous pensons que c'est elle, qu'elle est dans notre hôtel. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle est en quelque sorte débusquée.
Elle racontera, Agatha Christie, ce qu'elle a fait pendant ces jours.
Oui, alors elle va plaider, elle et son mari vont plaider la thèse de l'amnésie. Elle s'est trompée, elle ne sait pas ce qu'elle a fait, elle a perdu connaissance, etc. Bon, elle s'est quand même installée dans cet hôtel spa, en fait, de ville thermale, sous le nom de la maîtresse de son mari. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, bon, il y a beaucoup de choses,
c'est d'indices. Coquine.
Voilà, en fait, il semble qu'elle a espéré faire un peu de chantage à son mari, qu'il la prendra en pitié, qu'elle pensait absolument pas que ça prendrait les dimensions que ça a pris. Et du coup, elle en a été vraiment traumatisée.
Bon. Ah oui.
D'autant plus que beaucoup ont dit qu'elle avait fait exprès, elle a voulu faire, se faire de la publicité, parce qu'elle venait à ce moment-là de publier un ouvrage qui a été important, qui est Le meurtre de Roger Ackroyd. Et c'est vrai que cette affaire, en même temps, l'a traumatisée, qu'elle n'a pas voulu après qu'on en parle, mais en même temps, ça a boosté sa carrière, même si
bon,
sans doute...
Bon, est-ce qu'elle en avait besoin, franchement?
Non, voilà, elle n'en avait sans doute pas besoin.
Pour moi, Agatha Christie, c'est Les Dix Petits Nègres, c'est le premier roman que j'ai lu, roman énigme d'Agatha Christie, c'est une merveille. D'ailleurs, c'est le 6e ouvrage le plus populaire de tous les temps.
Oui.
Quand même, il est sorti en 1939. Le pitch, vous voulez que je le fasse ou vous le faites? Il y a 10 criminels qui sont impunis, qui sont invités sur une île. Oui. Ils vont disparaître l'un après l'autre. Et on se demande bien qui rend justice ou pas.
Surtout, voilà. Alors on ne va pas le dire quand même, hein, mais il faut bien que tout le monde connaisse pratiquement maintenant, je pense. Mais effectivement, il n'y a personne.
Mais non, ils ne sont que 10.
Voilà, ils ne sont que 10, il n'y a plus personne. Et c'est pour ça qu'Agatha a dit que c'était une gageure d'écrire ce livre. Elle a eu cette idée, mais elle dit elle-même, notamment elle a laissé des notes, des petits carnets, et elle dit qu'elle a dû faire, là je pense qu'elle a travaillé, non pas d'ailleurs tant pour l'écriture toujours, mais pour la conception. Elle dit qu'elle a dû faire un effort de construction très compliqué et très important. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'elle a tenu à l'adapter elle-même au théâtre. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre l'adapte parce qu'elle disait que ça n'irait pas et qu'il y a quelqu'un qui pouvait le faire.
Autre best-seller d'Agatha Christie, Mort sur le Nil, sorti en 1937. Il y a une adaptation récente, 2022. Mmh. Donc, c'est pas Mort sur le Nil, mais Meurtre sur le Nil. Et c'est toujours l'excellent Kenneth Branagh qui joue et qui réalise ce film.
Quelqu'un est mort. L'assassin est l'un d'entre vous. Le meurtrier est ici.
Aviez-vous connaissance de rancœur?
Madame a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut.
Je ne me sens pas en sécurité. Je ne suis en sécurité avec aucun d'eux.
Il y a beaucoup de conflits, de haine et de jalousie.
Oh, quel délice!
Avez-vous vu ou entendu quelque chose?
Elle n'avait pas ma confiance, elle ne l'a toujours pas.
Vous pouviez récupérer l'arme.
C'est moi que vous accusez maintenant?
Non, il accuse tout le monde de meurtre.
C'est un problème, je l'admets.
Et donc, ils n'ont absolument pas appelé ça Meurtre sur le Nil. Ils ont gardé l'excellent titre d'Agatha Christie, Mort sur le Nil, car même si elle n'est plus là, évidemment, elle veille à ce qu'on ne bouge pas son œuvre. À quelle occasion elle écrit cette histoire?
Alors, cette histoire, Mort sur le Nil, on a dit qu'elle l'avait écrit sur la terrasse du Hall Cataract, l'hôtel qui existe toujours, hein, qui se trouve à Souan. En fait, elle avait déjà eu l'idée avant d'aller passer le Noël de 1933 en Égypte. Elle avait écrit une nouvelle. Puis elle avait pensé en faire une pièce de théâtre. Et puis finalement, elle en a fait ce roman. Et c'est tout à fait caractéristique de la façon de travailler d'Agatha. Elle a des idées, elle les note, elle réutilise des personnages, des idées, elle les transforme, elle les reprend à des années d'intervalle. Vous voyez, c'est pas du tout figé.
Oui, elle a comme une boîte à outils, c'est ça, elle a son univers, sa cosmogonie, et elle va...
Oui, et elle pioche dedans, d'ailleurs elle écrit personnages ABCD sur ses petits carnets, etc. Oui, tout à fait.
France Bleu, Minute Papillon.
Elle a vendu plus de 2 milliards de livres, imaginez-vous, publié 69 romans, 17 pièces de théâtre. Je vous raconte le destin extraordinaire, rock'n'roll de la reine du crime, dans Minute Papillon avec l'excellente Marie-Hélène Bella, qui est autrice, agrégée d'histoire, et qui publie cette très belle biographie, Agatha Christie aux éditions Tempus. On découvre mille choses, je suis un peu frustrée, parce que je voulais raconter qu'elle a découvert le surf aussi, Agatha Christie. Elle surfait.
Oui, tout à fait, en Afrique du Sud. On dit même que c'est la première femme anglaise qui a appris à surfer. Puis après, elle a été à Honolulu, où elle s'est d'ailleurs abîmée l'épaule, mais elle adorait ça, oui.
Extraordinaire, Agatha Christie. Qui d'ailleurs, on parlait de mort sur le Nil, l'arme du crime, c'est le pistolet, mais... son arme favorite, c'était le poison.
Oui,
Comment elle découvre les secrets du poison? Oui.
Alors en fait, c'est quand elle était justement en train d'écrire son premier roman policier, dans cette pharmacie de l'hôpital de Torquay. Elle était, elle le dit, entourée de bocaux remplis de substances. Et elle s'est bien vite aperçue que ces substances étaient à la fois des médicaments, mais que mal dosées, ça pouvait être des poisons. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée d'utiliser le poison. Et elle s'est beaucoup documentée à tel point que quand la mystérieuse affaire de Seals est sortie, le journal pharmaceutique national a écrit un article en disant qu'elle connaissait son métier. Elle a utilisé pour empoisonner ses victimes, si je peux dire, plus de 40 substances. Vous voyez, donc c'est extraordinaire. Alors, la morphine, la strychnine, finalement, Philippe, il y a une telle liste qu'on ne pourrait pas la dire. Hein. Alors, elle le met dans le thé, dans le café, dans le whisky, dans la bière, dans des capsules, tous les moyens, dans le champagne, bien sûr, dans... aussi, c'est un moyen d'empoisonner, ou même dans une espèce de petite fléchette. Enfin, tous les moyens sont utilisés et c'est son arme préférée.
Voilà. Sportive, curieuse, inventive et grande globe-trotteuse, cette Agatha Christie.
Oui, elle a beaucoup
elle
voyagé
fait le tour du monde,
déjà.
Quasiment.
Oui, avec son premier mari, justement, puis
Archie.
On parlait du surf, avec Archie. Elle a fait ce qu'elle a appelé le tour du monde, en fait, des possessions britanniques, c'est-à-dire Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Honolulu, Canada, États-Unis, bien entendu. Et puis ensuite, à l'Orient, hein, tous les ans, puisqu'elle est plus un archéologue.
Oui, un petit jeune.
Un petit jeune, 14 ans de moins qu'elle.
Qui l'a rendue heureuse?
Oui, je pense. Oui. Globalement, oui, même s'il l'a trompée à la fin. Elle avait compris qu'il fallait faire des sacrifices, si j'ose dire.
Faut toujours faire des sacrifices. Voilà, il était archéologue et donc elle découvre l'Orient, non?
Oui, ouais. Elle passait la moitié pratiquement de l'année sur les champs de fouilles en Irak et en Syrie. Et elle a elle-même participé. Elle prenait les photos des objets sur les sites, c'est très important. Elle recollait comme un puzzle. Elle dit, écrire un roman policier, c'est comme un puzzle. Et ben, reconstituer des céramiques anciennes de 3 millénaires avant notre ère, c'est pareil, c'est comme un puzzle.
C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas pu imaginer ces histoires en étant sédentaire.
Oh, si, sans si, doute, ouais. Mais elle compare quand même les deux activités. Et puis, c'est vrai que l'Orient lui a inspiré un certain nombre de ses livres. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de l'Orient Express, on a parlé de Mort sur le Nil, Meurtre en Mésopotamie, etc. Elle a aussi été en Russie, dans l'URSS, ça lui a pas beaucoup plu, ça va apporter du caviar pour être sûr de manger. Bon, elle a énormément voyagé, elle adorait voyager.
Merci beaucoup Marilène Bellac, c'était passionnant de découvrir cette vie, cette phase B d'Agatha Christie et votre biographie avec mille autres histoires à découvrir sur La Reine du Crime est à lire aux éditions Tempus. À bientôt.
Merci, au revoir.
À bientôt. Et maintenant l'histoire incroyable, rock'n'roll du foot féminin.